Vous écoutez France Culture.
Dans les questions d'époque aujourd'hui, place au droit et aux questions juridiques avec vous Antoine Garabon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Sommaire du bien commun aujourd'hui, en fin d'émission, on retrouvera Sébastien Miller pour sa chronique du monde judiciaire. Aujourd'hui, une sombre affaire de travail forcé qui, dans un langage non juridique, ressemble fort à de l'esclavage moderne. La criminologie est-elle une science? C'est la question que vous allez poser dans le dossier Antoine. On sait que le débat a rejailli récemment à l'occasion d'une nomination controversée. Le dossier, ce sera juste après l'agenda juridique d'Harold Épineuse qui vient nous parler des livres, des colloques, des revues à ne pas manquer. Bonjour Harold.
Bonjour Caroline.
On commence par une manifestation parisienne aujourd'hui même.
Oui, c'est ce soir à 18h dans la salle des mariages de la mairie du 4e arrondissement de Paris. Il ne s'agit pas d'une cérémonie mais d'une conférence débat organisée par l'Association française de droit des médias et de la culture. Le titre de cette manifestation, censure, conformisme, judiciarisation, un double jeu des juristes, point d'interrogation. Ce double jeu supposé des juristes mérite sans doute autant d'explications que le titre de la conférence lui-même. Alors, essayons d'y voir un peu plus clair. Les organisateurs partent de cette idée que la censure, et plus précisément sa dénonciation, prennent une part démesurée dans les discours politiques, journalistiques ou juridiques contemporains. Avec, d'un côté, ceux qui récriminent l'existence d'un tiers censeur, sitôt identifié au pouvoir, et ceux-là même d'affirmer leur attachement au respect des droits fondamentaux, liberté d'expression, droit à la vie privée ou à l'image, qui ne saurait être entravé sous aucun prétexte. De l'autre côté, lit-on dans la présentation de la conférence, la censure serait invoquée comme repoussoir au politiquement correct et commanderait que l'on abolisse les législations prohibant les offenses religieuses aux symboles de l'État, les discours racistes, sexistes ou homophobes. Censure, conformisme, nous y sommes, mais les juristes dans tout ça? Eh bien, il se trouve que ces revendications prennent souvent le chemin des prétoires, celui de la judiciarisation, et que les juristes jouent dans ces enceintes un double jeu, gardien des libertés le jour, vecteur des actions dirigées contre ces mêmes libertés la nuit. On pourra donc aller écouter avocats, professeurs de droit, de linguistique ou de sémiologie débattre de cette question ce soir, sans oublier évidemment ce que les sociologues nous ont appris des fonctions instrumentales du droit.
Je répète, c'est ce soir à 18h, salle des mariages de la mairie du 4e arrondissement de Paris. On poursuit à rôle cet agenda par deux articles en ligne qui ont attiré votre attention et dont vous souhaitez recommander la lecture. C'est sur la vie des idées.fr.
Oui, une revue que l'on connaît bien ici, revue en ligne, Vie des idées, dont la dernière livraison, celle d'hier, nous offre deux articles particulièrement intéressants. Le premier est signé Pierre Brunet, professeur et directeur du Centre de théorie du droit à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, article intitulé « Le juge européen au pays des valeurs ». Un article articulé autour de la notion de pluralisme, représentative pour l'auteur de l'étrange imbrication des ordres juridiques, l'ordre juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux. Une coexistence pas si tranquille ou ordonnée qu'on voudrait bien le croire. Il suffit pour cela de jeter un regard sur les conflits de valeurs qui agitent les juges dans leurs décisions et l'auteur de nous donner quelques exemples récents qui révèlent, à défaut d'un ordre juridique de type classique, non pas un dialogue des juges européens entre eux autour de la matière communautaire, mais une construction du droit par analogie dont le premier bénéficiaire en termes de droits fondamentaux serait le citoyen européen.
Et le second article ?
Toujours sur l'Europe, un article intitulé « Une citoyenneté européenne une citoyenneté européenne est-elle possible ?» Un article signé Justine Lacroix. Justine Lacroix, que nous avions reçue ici même dans ce studio l'année dernière pour nous parler de la construction de l'Europe par le droit, eh bien c'est cette réflexion que la philosophe poursuit dans cette contribution en montrant, s'il en est besoin après le scrutin de dimanche, que l'Europe invente une nouvelle forme de citoyenneté. Laquelle ? Une citoyenneté fondée non sur la participation au pouvoir, ce que dénoncent précisément nombre de politiques, mais une citoyenneté fondée sur l'obtention de droits spécifiquement européens. Et à certains égards, compte tenu de nos histoires nationales, cela peut sans doute être vu comme un progrès.
Merci Harold Épineuse, à la semaine prochaine. On passe donc au dossier du bien commun, Antoine, sur la criminologie ce matin.
Mais oui, Caroline, parce que la France fait exception en Europe en ne proposant pas d'enseignement universitaire de criminologie et donc ne délivrant pas de diplôme de criminologue, comme le font nombre de ses homologues. Donc une polémique a récemment fait rage, comme vous le mentionnez au début de cette émission, à propos de la nomination d'une personnalité controversée proche du président de la République à une chaire de criminologie au CNAM. Alors, d'un côté, la criminologie est suspectée d'être moins une science que de servir une idéologie, mais de l'autre, son absence laisse les praticiens au dépourvu. Le crime est certes tributaire d'une définition politique, ce n'est pas un fait social brut ou pur. Quoi de commun entre une mère maltraitante et un comptable indélicat, mais il n'en présente pas moins certaines régularités qui méritent l'attention des sciences humaines, ne serait-ce que pour les déconstruire. Alors, la criminologie, est-elle une science exacte ? Voilà la question que je vais poser ce matin à mes deux invités, à Yves Cartuyvels, qui est juriste et philosophe, et qui se dit également criminologue, qui revendique ce titre. On lui demandera de s'expliquer tout à l'heure sur cette jonction. Il est doyen de la faculté de droit des facultés universitaires Saint-Louis. On lui doit un grand nombre d'articles et d'ouvrages, j'en retiens que deux. La naissance du code pénal en Europe, qui a été publié aux éditions Larcy de Bouc en Belgique, et qui a signé beaucoup plus récemment dans la revue de droit pénal et de criminologie de janvier 2009 un article intitulé « Troubles de conduite et déviance, des amours en nos troubles ». Et donc, qui pose la question de la criminologie. Et pour en débattre avec lui, Loïc Villerbu, qui est professeur à Rennes 2, de psychologie et de criminologie. Je crois que c'est le seul, lui aussi, qui revendique ce titre en France. On lui doit plusieurs ouvrages, « Dangerosité et vulnérabilité en psychocriminologie »,« Identification et sérialité », un autre ouvrage, plus récemment « Temps psychique et temps judiciaire », tous ces ouvrages étant publié aux éditions L'Harmattan, et il a contribué à la prochaine livraison de l'actualité juridique pénale qui portera justement sur cette question, j'allais dire, sur le point de cette polémique. Quel sera le titre exactement, Loïc Villerbu ?
Oui, « Penser une formation en criminologie ».«
Penser une formation en criminologie ».
Quelles sont les résistances et les perspectives d'un tel projet ?
Est-ce que vous pourriez affranchir nos auditeurs, Loïc Villerbu, sur cette polémique ? Ils ne sont pas forcément au courant de ce qui a agité le bocal, le microcosme des pénalistes et des criminologues en France récemment.
Oui, le bocal agité tenait essentiellement à ce que les résistances à enseigner une psychologie font référence très directement au lobbying professionnel, politique et universitaire.
Et quel lobbying ?
Les lobbyings, ce sont ceux qui concernent très très directement le besoin éprouvé par certains de garder leur territoire vierge de toute occupation ou de toute intrusion.
Donc, guerre de territoire entre les juristes qui veulent préserver les sciences criminelles, les psychologues qui veulent garder la psychologie criminelle.
Je crois que ce n'est même pas une guerre de territoire entre des disciplines psychologie et criminologie. Je crois que c'est une guerre de territoire entre des personnages internes, soit en psychologie, soit en droit.
Mais est-ce que ça ne représentait pas aussi quand même une tension qui est à l'image de ce que la sécurité est devenue dans le débat politique français, comme dans toutes nos démocraties, c'est-à-dire que la sécurité est une question trop importante désormais pour être laissée à des juristes ou à des policiers. Elle est devenue un véritable enjeu qui nécessite un savoir pour la renforcer.
Certainement, on peut penser comme ça, mais on peut aussi penser qu'il y a des mots qui font peur et qu'ils sont utilisés à juste titre pour faire peur, comme celui de criminologie. Parce qu'actuellement, dès qu'on prononce le terme de criminologie, on pense en termes d'insécurité, de sécurité, de politique sécuritaire.
Mais Loïc Villerbu, est-ce qu'on n'inverse pas la cause et l'effet ? Ce qui fait peur, surtout, c'est le crime légitime.
Non, ce qui fait peur, c'est tout le discours autour du crime et tout ce que l'on ne dit pas autour du crime. C'est ça qui fait peur. C'est pas le crime lui-même.
Donc une science de ce qu'on ne dit pas, la
criminologie. C'est en partie une science de ce qu'on ne dit pas, de ce qu'on a trop dit dans le temps et de manière très positive, et de ce qui reste à dire de manière non positive dans la jonction du droit d'un côté et de la psychologie de l'autre.
Yves Cartuyvels.
Oui, je ne suis pas du tout entré dans le débat franco-français et que je ne connais pas
c'est
bien.
C'est précisément pour ça qu'on vous a invité ce matin.
Tout à fait. Mais je pense que les enjeux sont peut-être quand même un petit peu plus complexes que ce que mon interlocuteur vient de poser. Je crois qu'il y a autre chose que des jeux de personnes et de défense de pur territoire. Pour le comprendre, il faudrait peut-être revenir sur ce qu'est la criminologie comme science. Alors, est-ce que la criminologie est une science ? Je ne crois pas qu'elle soit une science au sens où se définissent des sciences exactes, par exemple, avec un accord sur un paradigme, une méthodologie, un terrain, etc.
Oui, mais vous passez directement aux sciences exactes. Est-ce que c'est une science humaine ?
Mais même en sciences humaines, même par rapport à la philosophie ou par rapport au droit. On a là des critères qui sont beaucoup plus définis. Alors, la criminologie, de ce point de vue-là, n'est pas, je crois, une science. Elle doit être définie comme un champ d'étude qui est défini par la question criminelle. C'est ce qui fait sa spécificité. Et par ailleurs, c'est un champ d'étude qui est fondamentalement interdisciplinaire. On travaille sur la déviance, on travaille sur la question pénale. Eh bien, vous avez des juristes, forcément. Vous avez des sociologues. Vous avez, alors chez nous, des criminologues. Vous avez des psychologues. Vous avez là donc une multitude de disciplines différentes qui se sont intéressées à la criminologie depuis ses débuts, à la fin du 19e siècle.
Donc une mobilisation de toutes les disciplines sur une question.
Sur une question. Et ce qui fait la spécificité de l'approche, c'est le champ d'études, c'est le terrain. Alors, je parle de discipline à dessein parce que, depuis sa consécration officielle, à la fin du 19e siècle en Italie, c'est la naissance de la criminologie, vous avez quand même au sein de cette discipline qui s'est constituée des courants, des paradigmes. Il y en a deux grands qui s'affrontent et de manière très dure, de manière très violente, parce que derrière ces deux paradigmes, vous avez une lecture fondamentalement différente du crime, du criminel, de la manière de penser la réponse au crime et derrière laquelle se trouvent évidemment des enjeux qui sont éthiques et politiques.
Alors est-ce que vous pourriez expliquer pour nos auditeurs quels sont les deux pôles de cette tension ?
Alors les deux pôles de la tension, ils sont, je vais être un brin caricatural, mais je pense que ça permet de comprendre les enjeux du débat aussi. Vous avez à la fin du 19e siècle, en Italie, la naissance officielle de la criminologie avec ce qu'on appelle l'école positive italienne. Alors vous avez un nom qui est parfois plus connu des auditeurs, qui est Lombroso. C'est l'image de Lombroso qui cherche la nature du criminel, l'homme criminel, derrière la forme du crâne, etc. Alors qu'est-ce que vous avez comme paradigme commun derrière cette criminologie officielle qui émerge à la fin du 19e ? Trois choses quand même importantes, qui vont être très fortement discutées après la Deuxième Guerre mondiale par le deuxième paradigme plus constructiviste que je vais évoquer ensuite.
Alors, les trois postulats.
Les trois postulats. Vous avez l'idée d'un crime en soi. Il y aurait des actes qui sont crimes par nature. Et la question pour le criminologue, c'est d'essayer d'identifier ce qui fait le crime, la nature du crime. Deuxième postulat, et il découle du premier, il y aurait une sorte de nature criminelle. Il y aurait des criminels, des personnes qui sont prédisposées au crime. Donc l'idée d'une ontologie du criminel.
Le criminel né.
Le criminel né, alors ça va se décliner autrement et ça va se jouer effectivement de manière plus subtile, mais il y a fondamentalement cette image-là. Et puis, vous avez donc, troisième postulat, l'idée qu'il y aurait une sorte de séparation assez nette et radicale entre ceux qui sont criminels et ceux qui ne le sont pas. Ça donne quoi ? Ça donne une criminologie administrative de contrôle social qui a un projet fondamental, contrôler des populations considérées comme dangereuses. Un projet qui n'interroge absolument pas la question sociale, le projet social dans lequel se déploie le crime. Vous avez alors, si vous me permettez en deux mots,
oui,
de poser peut-être l'autre paradigme, parce que je pense que c'est là qu'on
c'est
voit
ça,
la tension.
Poser l'autre, puis ensuite je demanderai à Louis Diabus qu'il en pense, bien sûr.
Alors, vous avez un paradigme constructiviste qui émerge déjà avant la Première Guerre mondiale, mais qui va véritablement se construire et se théoriser dans la deuxième moitié du XXe siècle, autour d'un courant qu'on va appeler de sociologie de la déviance. Et c'est vrai que c'est une approche alors sociologique qui prend le relais, qui part d'un autre postulat de départ.
Il n'y a pas de crime.
Le crime n'existe pas en soi. Non, ça n'est pas si simple. Le crime existe, c'est évidemment une réalité, mais c'est toujours une réalité construite. Autrement dit, un crime, c'est d'abord et avant tout un acte qui est érigé en crime dans une société donnée. Or, on sait que ça, c'est fondamentalement fluctuant. Un tout petit exemple, je reviens du Burundi, où j'étais passé deux semaines. Il y a trois semaines, le Parlement burundais a décidé d'ériger l'homosexualité en crime. Bon, impensable ici actuellement, tout à fait possible là-bas. Donc, réalité construite. Deuxième idée qui en découle, le criminel en tant que tel, par nature, n'existe pas. Le criminel, c'est quelqu'un qui commet un acte qui est incriminé. Il peut donc tout à fait être criminel un jour, il pourrait ne plus l'être le lendemain si l'acte en question est décriminalisé. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui, à travers son parcours dans la justice pénale, ressort avec une étiquette de déviant ou de délinquant. Et donc, vous avez une troisième conséquence à tirer de ce type d'analyse, c'est qu'on a un regard évidemment beaucoup plus critique sur le processus de construction de la déviance, sur sa dimension politique et sociale. On se pose de toutes autres questions. Les questions qu'on se pose, c'est que criminalise-t-on ? C'est qui poursuit-on ? C'est quels sont les effets de l'intervention pénale ? Oui, vous avez donc là deux projets radicalement différents.
Est-ce que cette seconde voie n'est pas une science qui ne cesse que de se détruire elle-même, de se déconstruire elle-même, de déconstruire son objet ?
Dans quelle mesure ?
Dans le sens où elle dit il n'y a pas de crime. Alors bien sûr, s'il n'y a pas de crime, il n'y a pas de crime.
Non, elle ne dit pas il n'y a pas de crime. Donc ça, c'est un reproche de nominalisme excessif auquel elle n'a jamais prétendu. Il y a bien sûr des réalités qui existent et qui sont là. Il y a des réalités qui, à un moment donné, sont construites comme crime. Ça n'est pas nécessairement illégitime. On peut tout à fait considérer dans une société donnée qu'il est légitime à un moment donné de considérer que par rapport à certains types d'actes, on les érige en infraction parce qu'il y a là une parole forte qui doit être énoncée. Simplement, il n'y a pas de naturalité derrière ce processus.
C'est ça. Et puis, il n'y a pas cette opposition, si fondamentale, entre normal et pathologique qui est...
Et vous avez alors, et ça c'est un courant, c'est une autre ligne de césure fondamentale entre deux types de criminologues. Il y a effectivement dans ce courant l'idée que le criminel est quelqu'un qui fondamentalement fait partie du monde commun, que nous sommes peut-être tous à un moment ou l'autre, et les crimes de masse en donnent des exemples extrêmement intéressants, nous sommes peut-être tous à un moment ou l'autre susceptibles de passer à l'acte ou d'être criminalisés en fonction des évolutions sociales. Et donc effectivement, refus de cette idée d'une distance, d'une différence fondamentale de départ entre certaines catégories de personnes et d'autres.
Loïc Villerbu, vous êtes psychologue, donc vous êtes enseigné à la psychologie. Comment est-ce que vous vous situez par rapport ? Vous êtes d'accord avec cette
présentation ? Non, pas tout à fait. D'une part parce que le recours à l'histoire n'est pas explicatif, mais simplement compréhensif. Et ensuite parce que les débats, pour autant qu'ils puissent persister entre deux axes qui seraient l'un positiviste et l'autre constructiviste, donnent lieu dans l'histoire à des modalités extrêmement différentes. Donc si sur le fond, mon interlocuteur a raison, dans la forme et dans la pratique, les choses sont quand même plus nuancées et surtout plus complexes que ça. Pour le psychologue, la question de la criminologie rejoint de façon très, très étroite celle de la naissance et du développement de la psychologie. Je veux dire qu'on peut faire...
Qui est intimement lié à la recherche de la compréhension du crime.
C'est intimement lié à la fois dans le parcours théorique et dans
Tout à fait. Non, mais c'est vrai aussi, c'est très intéressant de le rappeler à nos auditeurs, c'est vrai de la naissance de la psychiatrie, c'est vrai de la naissance de la sociologie. Gabriel Tarde est un criminologue. C'est lui qui fonde en quelque sorte la sociologie.
Et de la psychologie. La psychologie a ses débuts quand elle émane très directement du champ de la psychophysiologie. Est une science extrêmement positive. Et avant que les psychologues ne se rendent compte que ce qu'ils mesurent était des effets de construction sociale et de construction de leur instrument, mais il leur a fallu du temps. Autrement dit, ce que l'on peut mettre en place et en évidence du côté de la crimino, on le met également en place du côté de la psychologie.
Quelle serait la spécificité, c'est-à-dire est-il pertinent pour un psychologue d'isoler des comportements criminels comme étant en quelque sorte un symptôme, je prends un gros mot, particulier ?
Mais la psychologie dite non positive n'a pas comme objectif d'isoler des comportements criminels. La psychologie non positive a comme objectif de concevoir comment se construit et se pratique un rapport à soi et à l'autre qui implique l'entrée plus ou moins important et féconde dans une chaîne pénale. C'est de cette manière que je disais tout à l'heure que ce qui fait la psychocriminologie, c'est cette mise en tension permanente de ce qui a trait au subjectif d'un côté et de ce qui a trait au droit comme droit positif de l'autre. C'est cette jonction-là qui fait l'essentiel de nos réflexions.
Oui, je voudrais juste rebondir là-dessus. Je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage récent de Christian de Beust, nom que vous connaissez sans doute, Françoise Ignef et Alvaro Pires, Histoire des savoirs sur le crime et de la peine, tome 3, Expliquer et comprendre la délinquance, 1920 à 1960, où ils refont là de manière assez magistrale, au fond, l'histoire de la manière où, entre 1920 et 1960, les psychologues ont investi le champ de la criminologie. Et on voit là très clairement émerger à nouveau deux paradigmes de manière de penser la question pour les psychologues, qui se rattachent d'ailleurs aux deux paradigmes que j'ai évoqués. Alors, vous avez raison, il y a une tradition, pour autant qu'on parle bien de la même chose, qui est ce que j'appellerais une tradition clinique. qui s'est développé, qui était centré sur quoi, qui avait une vocation compréhensive, qui était intéressé par essayer de comprendre le sens de l'acte criminel, qui s'intéressait à la trajectoire de l'individu déviant et qui avait comme méthode, au fond, privilégiée une approche à caractère qualitatif fondée sur la parole d'un individu, qu'on considérait comme le dépositaire premier du savoir sur sa propre trajectoire. Et vous avez là une tradition qui est compréhensive. Vous en avez une autre, et je rebondis sur les termes que vous avez utilisés, ils sont intéressants, vous avez opposé explicatif et compréhensif. Vous avez une autre tradition qui est effectivement n'est pas compréhensive, qui est explicative et qui cherche quoi ? Qui cherche à établir des régularités entre certains types de comportements à un moment donné et puis d'autres comportements prévisibles plus tard. C'est une démarche complètement différente. On fonctionne avec des méthodes quantitatives, on fonctionne par corrélation statistique avec, je pense, une série de biais qui sont généralement systématiquement éludés. On est sur une base d'un présupposé entre effectivement des comportements normaux qui se distinguent de comportements pathologiques. On est vraiment là avec deux démarches qui sont très très différentes.
Alors, Loïc Verhuis, est-ce que vous retrouvez dans cette extension explication comprend.
Je ne me retrouve pas, je ne peux pas être d'accord, parce que c'est une vision de la clinique par un sociologue. Et ce n'est pas une vision de la clinique telle qu'elle se pose actuellement.
Comment un clinicien
va-t-il confondre la clinique avec l'histoire du cas individuel, c'est une pensée archaïque. Autrement dit, la clinique n'est pas celle du cas individuel. La clinique fonctionne par modélisation permanente. Et les modélisations ont forcément recours aussi à des éléments statistiques. Il y a une définition de la clinique qui est profondément archaïque dans notre histoire des sciences.
On pourrait reformuler la question de manière différente. C'est comme ça que je la comprends moi-même. Est-ce que l'objectif de la criminologie, de la psychocriminologie, c'est de rentrer dans un univers de sens conduit à un crime, c'est-à-dire restituer la signification d'un acte dans un parcours individuel, parcours qui peut avoir des régularités collectives? Ou est-ce que c'est avant tout étudier de manière statistique les régularités de comportements sociaux est-ce que fait la criminologie actuarielle aujourd'hui, c'est-à-dire en appliquant des méthodes de la statistique financière ou en analysant finalement le comportement d'un délinquant comme on analyse le comportement des volcans, pour un exemple extrême. Est-ce que vous ressentez cette tension dans la criminologie aujourd'hui ?
Il y a cette tension au point qu'en France, dès qu'on parle de criminologie, on oppose la criminologie actuarielle à aucune autre criminologie. Donc autrement dit, on nous fait le coup du complexe nord-américain en disant « Vous voulez de la criminologie, ça sera forcément de la criminologie actuarielle. »
Vous pouvez dire un mot la criminologie actuarielle pour nos auditeurs ?
La criminologie actuarielle, c'est le fait de penser une capacité à prédire des comportements sur la base des comportements anciens, à ajouter à ceci le fait de tenir compte des facteurs de vulnérabilité, soit sous forme addictive, soit sous forme situationnelle. C'est ça la criminologie actuarielle.
Donc avant tout, prédictive.
Elle cherche à être prédictive sur la base de ce qu'elle connaît du passé, non pas d'un individu, mais d'un grand nombre d'individus ayant traversé de mêmes situations.
En oubliant toute une série d'individus qui sont partis des mêmes situations de départ, mais qui ne se retrouvent pas dans les cohortes analysées.
Mais bien entendu, c'est ce pourquoi on ne peut pas être d'accord absolument avec la criminologie actuarielle, je suis bien d'accord. Mais comme je ne peux pas être non plus d'accord avec une sociologie qui serait une sociologie prévisionnelle, positive d'une certaine façon.
Mais alors quel est votre point de vue de psychologue, vous, face au phénomène criminel ?
Le point de vue du psychologue consiste à penser qu'on ne naît pas criminel NAIT, qu'on le devient et qu'on le devient à partir de certaines caractéristiques sociales, socioculturelles, socio-familiales, et que, évidemment, la question de l'incrimination repose bien sur l'évolution du droit positif. À savoir que les crimes se déplacent, que le rapport à la criminalité se déplace, que les grandes figures paradigmatiques du crime se déplacent aussi.
Mais ça n'est pas un obstacle pour autant à réfléchir de manière scientifique sur ces comportements.
À mon avis, non. Parce que ce ne sont pas que des comportements, c'est le sens qu'on y met qui est l'objet essentiel de la réflexion. Et le sens qu'on y met n'est pas le sens qu'on y attribue d'un point de vue strictement subjectif et individuel, puisque ça englobe en même temps la question sociale et le développement des mentalités.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, si je prends par exemple la notion de trouble de conduite, si je lis le rapport de l'INSERM sur les troubles de conduite chez l'enfant et l'adolescent qui a fait grand bruit, et si je me reporte au rapport Benisti, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on insiste plus sur la régularité et sur la prédictibilité plutôt que sur la recherche de sens, Loïc Villerbu?
Je dirais que ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Il y en a qui vont insister sur la régularité, et ils vont d'autant plus insister sur la régularité qu'ils vont dénoncer l'idéologie de telles entreprises de recherche épidémiologique. Autrement dit, c'est pas neutre tout ça. Mais dans le rapport de l'INSERM, dans lequel le comité faisait aussi partie à un autre auteur canadien important, intéressant, Richard Tremblay, il était aussi fait mention d'un certain nombre de précautions et de prudences dans l'étude épidémiologique de cette construction. Autrement dit, il ne s'agissait pas de détecter, au sens où on l'a décrit en France de manière positive, il ne s'agissait pas de détecter des comportements futurs criminels, mais il s'agissait de voir quelles étaient les situations susceptibles de produire de tels comportements à long terme. Or, et je veux dire que cette prédiction, pour peu qu'elle n'emprunte pas le calcul statistique, c'est une prédiction que fait naturellement, évidemment, tout clinicien dans une consultation.
Bien sûr, c'est le cœur même du travail de psychologue.
Alors, Cartuvel. Peut-être trois remarques sur ce qui vient d'être dit. La question des comportements. Rien n'empêche évidemment de s'intéresser aux comportements. Et je veux dire, c'est des choses que les criminologues ou les sociologues de la déviance font également. La question, c'est pourquoi s'intéresser au comportement, comment, pour en tirer quelles conséquences. Et là, on peut avoir des options quand même qui sont radicalement différentes. La deuxième chose, c'est l'instrumentalisation, à mon sens, des psychologues aujourd'hui. Je pense effectivement que nombre de psychologues qui se rattachent aujourd'hui à une mouvance de type positiviste ou de type cognitivo-comportementaliste, je pense que les deux sont largement liés, se font instrumentaliser à leur insu. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte du projet politique dans lequel s'inscrit aujourd'hui leur démarche parce que, et je cite Ganguilhem, je pense qu'il l'avait très très bien vu il y a une trentaine d'années, parce que souvent, et je côtoie moi des psychologues régulièrement, souvent ce sont des gens qui sont relativement dépolitisés et qui ne se posent pas les questions sur le projet social actuel dans lequel s'inscrit la démarche qu'on leur demande de poursuivre. Alors, la troisième remarque, sur la démarche que vous avez évoquée, on est dans des processus, là, le rapport de la CERN, dans des processus, effectivement, qui sont à caractère épidémiologique, on cherche à établir des régularités, on cherche à prédire. Ce qui est intéressant quand on travaille sur le rapport de l'INSERM, et je l'ai lu vraiment de fond en comble, c'est d'abord qu'il est truffé d'incohérences. Donc ça, c'est extraordinaire. Très honnêtement, je serais scientifique, oser signer un rapport comme ça, je trouve qu'il faut oser.
Ce qui est surprenant pour un rapport qui a fait...
C'est vraiment très étonnant. Mais sur le plan épistémologique, vous avez des contradictions extraordinaires. Je m'excuse, mais ça ne tient pas un moment la route. La deuxième chose qui est très très frappante, c'est de voir alors les variables qui fascinent les chercheurs. On est avec l'idée qu'il faudrait étudier bien sûr des situations de départ qui permettraient de prédire des trajectoires ultérieures. La question, c'est le choix des variables. Alors là, c'est l'auberge espagnole.
Et on retrouve notre problème de la criminologie, c'est qu'on est, obligé de prendre des variables nécessairement sociales ou extrêmement floues, vagues.
Si on s'inscrit dans cette démarche, la question c'est de savoir si cette démarche-là a un sens.
Troisième observation, ensuite donnant la parole à la défense.
C'était ma troisième.
Alors, Loïc Villerbu, comment...
Il y a toujours un ensemble de biais méthodologiques quand on étudie un problème.
Oui.
C'est sûr, les biais méthodologiques, ce sont les travers par lesquels on doit passer pour évaluer, mesurer, escompter, et faire un bilan. Donc, et ceci, quelles que soient les orientations que l'on peut avoir. On dit que les psychologues sont instrumentalisés par l'emprise d'une langue neurocognitive ou comportementale. Mais je dirais la même chose aux autres psychologues. Tout psychologue est forcément instrumentalisable, comme tout savoir est forcément instrumentalisable. Et quand on me dit que sur le plan épistémologique, les choses ne tiennent pas, c'est exactement la même chose qu'on me disait quand on disait sur le plan éthique, ça ne tient pas. Autrement dit, l'épistémologie, c'est quoi ? L'éthique, c'est quoi ?
Pour préciser la question qu'on peut se poser à propos de cette instrumentalisation, bien sûr que la science sert à quelque chose. La différence, c'est qu'une chose est de servir à la guérison, à l'horizon thérapeutique, au mieux-être, à soulager la souffrance, autre chose est de servir à la paix des honnêtes gens et à enfermer plus et plus longtemps pour garantir la liberté des autres. Parce que je reprends, quand je dis la liberté des autres, c'est à dessein, parce qu'on a, c'est, me semble-t-il, une question importante. On a parlé, notamment David Garland, de la criminologie de l'autre, c'est-à-dire une criminologie qui, au lieu de rapatrier dans le monde commun ou d'avoir ce rapatriement dans le monde commun comme horizon, a au contraire la perspective de l'horizon. Alors ça, c'est une véritable question qui est posée.
C'est une véritable question.
Psychologue.
C'est une véritable question. Mais ce que je retiens de votre opposition, c'est l'opposition classique entre, au fond, un mode de gouvernance et un mode de guérison. Et je pense que cette opposition, ces deux axes-là, qu'on oppose systématiquement comme étant des opposés, comme étant des contrastes inconciliables, au fond, ce sont des héritages du passé.
Vous ne sentez pas aujourd'hui monter, notamment en France, un souci sécuritaire et, par exemple, répressif par rapport à l'éducatif
Je dirais la même chose de la fin du 19e siècle. Quand on lit les ouvrages du 19e siècle sur l'enfance et l'adolescence, c'est exactement pareil. Fin du 19e siècle, on disait très clairement, il y a une montée gravissime de la délinquance des jeunes filles. Fin 19e. On dit la même chose maintenant.
Très intéressant. La délinquance des jeunes filles, c'était la prostitution. C'était des comportements qui aujourd'hui paraissent absolument...
Mais c'était aussi parce que les activités des patronages, les activités de police et autres étaient nécessairement plus efficaces.
Hein? Mais vous avez tout à fait raison de souligner qu'on en revient aujourd'hui à des grilles d'analyse qui sont celles de la fin du 19e siècle et donc du premier paradigme de la criminologie que j'ai évoqué.
Oui, mais je refuse de penser dans cette opposition de paradigme parce que je me dis que cette opposition de paradigme-là ne sert qu'à clore un débat qui est à ouvrir.
Il sert à le structurer. À le rendre lisible pour nos concitoyens et pour nos auditeurs. C'est-à-dire que...
Mais on ne rend pas visible n'importe comment. On rend visible à travers des biais qui soient méthodologiques ou théoriques.
Alors, quelle serait, pour vous, Loïc Villers-Buc, quelle serait la bonne manière de présenter le débat aujourd'hui ?
Ben, il n'y a pas une bonne manière. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'au fond, les pouvoirs dans l'histoire se sont réifiés dans des ministères. Et chacun des ministères croit avoir un objet propre au niveau du pouvoir, de l'idéologie et avec ses scientifiques particuliers. Ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas actuellement sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes si nous n'avons pas une pensée autour de la santé publique.
Oui, mais...
Et c'est ce terme-là qui me paraît devoir construire et élaborer de nouveaux paradigmes.
Oui, mais alors santé publique, donc vous vous situez dans l'univers du soin. Et je comprends que pour vous, c'est plus facile, Loïc Villers-Buc, en tant que psychologue venant du champ de la psychologie. La question, c'est que ce savoir, il va être utilisé par des gens qui n'ont pas du tout la perspective du soin, qui ont la perspective de la répression, et au-delà de la répression, qui ont une perspective délibérément politique, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le modèle libéral autoritaire, c'est un modèle qui fait de la prévision, de la prévention, mais pas dans la prévention, encore une fois, dans la perspective de la santé publique, mais dans la perspective
de
la répression.
Mais pourquoi ne pensez-vous que de manière négative ?
Je ne pense pas de manière négative, de manière tensionnelle entre deux pôles.
Vous de manière négative,
pôles.
Vous dites attention, non, mais il y a des gens qui vont...
La question, c'est par ailleurs, qu'est-ce que vous entendez par santé publique ? Santé publique, ça peut être effectivement penser l'intérêt de l'individu en tant que tel, et on revient sur une tradition clinique herméneutique qui s'inscrit dans cette dimension-là, ou bien on pense effectivement l'intérêt du collectif en tant que tel. La santé publique en tant que politique d'hygiène sociale. Alors, il y a toujours cette tension-là entre les deux. Et elle a toujours existé. Ce qui me semble, moi, revenir de manière très très forte aujourd'hui, mais j'ai une autre expérience que l'expérience française, je suis aussi en Belgique. En Belgique, à cheval sur deux mondes culturels, où on voit les influences anglo-saxonnes s'immiscer de manière beaucoup plus importante. Et on voit une collusion qui est en train d'émerger, de manière très nette, entre une perspective de santé publique au sens hygiène, hygiénisme social, et effectivement, sécurité publique. Et l'instrumentalisation, c'est là que je parlais d'instrumentalisation, l'instrumentalisation, elle est très forte. Je termine une recherche sur les processus de défense sociale aujourd'hui. Donc, nous avons en Belgique des instituts de défense sociale où sont orientés des gens qui ont commis des faits qualifiés infractions, mais qui sont diagnostiqués comme ayant un problème de santé mentale avant le jugement, donc ils se retrouvent dans un circuit parallèle. Il est extrêmement intéressant de travailler sur la logique de soins dans ces institutions. Qu'est-ce qu'on réalise ? C'est que la logique de soins est en train aujourd'hui de se faire complètement dépasser par une logique effectivement de testing prédictif. Ce qui intéresse. Et les psychologues sont là et ils le disent, ils le sentent. Et ils résistent comme ils peuvent. Mais il y a une logique administrative qui vient du haut dans un contexte où la question de la sécurité publique devient absolument prioritaire, qui fait que le travail de ces personnes-là, à leur corps défendant souvent, mais ils n'ont pas le choix, est en train de subir une transformation extrêmement importante. Et donc, c'est là que je pense, collusion santé publique, sécuritaire, il y a un problème.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et quand vous dites que nous n'avons pas en France d'institut de défense sociale, c'est vrai, nous nous sommes habitués à penser en termes médico-sociaux.
Quelle différence entre médico-social et défense sociale ?
La différence, c'est qu'on a totalement, éliminé la question sociale. On pense que la question psychique, la question du soin, la question médico-psychologique. Le reste, en termes d'insertion, en termes de dispositifs sociaux, en termes de dispositifs d'intégration, est laissé de côté au profit de ce qu'on appelle une souffrance psychique. Or, il n'y a pas que ça, quand même. Il n'y a pas que ça.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, la criminologie, elle est polarisée aussi entre l'auteur, la victime ? La grande nouveauté, finalement, de la criminologie serait l'arrivée de la victime, et qui a changé beaucoup de choses. À juste titre, on ne peut que s'en réjouir. Mais est-ce qu'elle n'a pas polarisé en disant « le crime, c'est une affaire entre un auteur et sa victime ?»
Tout à fait. Vous avez absolument raison. Quand nous parlons de criminologie, quand nous évoquons le terme de criminologie, à qui pense-t-on sinon au criminel ? Or, la criminologie, quand on la resitue dans un contexte contemporain, a deux faces. Elle a une face agressologique, le crime, le criminel, ses auteurs, etc., et une face victimologique. Autrement dit, quand on raisonne en termes de criminologie, c'est toute une nouvelle réflexion sur ce qu'on appelait dans le temps le couple pénal. C'est une nouvelle réflexion sur ce qu'on appelait dans le temps en psychiatrie le couple à deux, délirant ou pas. Autrement dit, c'est une construction qui oblige à penser en termes d'interrelation subjective permanente, mais dans un contexte juridique particulier, parce que l'on pense effectivement que le fait de se mettre, d'avoir une pratique transgressive n'est pas aléatoire.
Est-ce que ce couple n'est pas un peu piégeant dans le sens où il n'a pas, est-ce qu'il n'a pas, dirais-je, pour horizon d'essentialiser, là encore on retrouve cette difficulté, l'auteur et la victime, sans être capable de comprendre que souvent les victimes, les auteurs sont d'anciennes victimes, que les victimes seront de futurs auteurs, que souvent ils appartiennent au même milieu et qu'ils souffrent des mêmes déterminismes sociologiques. Loïc Villarbu, est-ce que pour montrer, si vous voulez, la ce qui me semble être le cœur de notre débat, pour montrer la fragilité d'une science qui se fonde sur un événement social beaucoup plus.
Mais pourquoi voulez-vous que ça soit une science ? Pourquoi ne décidez-vous pas que ça puisse devenir éventuellement une science, mais que ça ne l'est pas encore ? Et que les reproches qui sont faits à la criminologie sont justement de n'avoir pas d'objet. Mais elle n'a pas d'objet tout simplement parce qu'elle est multipliée ou elle est secondarisée par des disciplines extrêmement différentes. La présentation qu'on a en France est celle-ci. J'étais à un conseil il n'y a pas très très longtemps, on me disait « criminologie, qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est même pas reconnu par le conseil d'administration. Ce que je veux dire par là, c'est que la criminologie étant le fait de disciplines multiples, elle s'évanouit. Autrement dit, ou bien on dit il n'y a pas de criminologie et on dit il n'y a pas de criminologue, ou bien on dit on voudrait qu'il y ait des criminologues, et dans ce cas-là, on essaye de voir comment fonder une criminologie. Alors, et c'est là que la question de la formation devient essentielle.
On en dira un moteur, mais avant, oui.
Je suis très surpris par l'idée que la criminologie n'est pas d'objet. La criminologie a très clairement des objets. La criminologie a comme objet le crime, la réaction sociale et pénale au crime, et de manière plus récente, effectivement, la question de la victime. Donc vous avez un champ qui est délimité justement par ces objets.
Mais je suis absolument d'accord avec vous.
Mais donc là, on est effectivement. Donc là, la question des objets, je pense qu'elle existe. Alors la question, c'est de savoir ce qu'on construit autour de ça. Oui. Donc je pense qu'il est impossible de construire une science qui soit autonome, qui serait un champ clôturé, que ce serait une discipline. Ça s'est tenté par le passé, ça a chaque fois foiré, si vous me permettez l'expression. Et donc je pense qu'il faut effectivement la penser dans une perspective qui est interdisciplinaire. Je voudrais revenir quand même un moment sur le point antérieur et la question de la victime que vous évoquez, qui est évidemment important et qui illustre à nouveau, je crois, la double manière dont on peut prendre le problème.
Le dernier grand élément intervenu dans le champ criminologique, c'est effectivement ce qu'on appelait le retour de la victime. Alors, vous avez la victime individuelle, vous avez aussi l'ensemble des victimes potentielles, c'est-à-dire l'opinion publique. C'est le deuxième élément quand même extrêmement important qui a fait irruption dans les 30 dernières années. Et l'ensemble des politiques publiques en matière pénale est quand même aujourd'hui déterminé de manière fondamentale par cette question-là. L'opinion publique, comment rassurer l'opinion publique, cet ensemble de victimes potentielles. Si on reprend la question de la victime, on peut le prendre de deux manières. Je caricature à nouveau, mais je pense que le fil va être relativement clair pour les auditeurs. Si vous êtes dans le cadre du premier paradigme que j'ai évoqué, hein, paradigme naturaliste, l'irruption de la victime promeut une forme de réponse beaucoup plus dure au crime qui a été commis par l'auteur. Parce qu'on est dans une logique où on polarise fondamentalement les positions d'auteur et de victime. C'est ce que vous avez évoqué, Antoine Garapon. Vous avez une deuxième perspective, qui est au fond une logique beaucoup plus interactionniste, où on prône une rencontre entre auteur et victime, et on prône un paradigme de justice réparatrice ou restauratrice, où on part de deux sujets parlants qu'on essaye de faire dialoguer et entre lesquels on essaye d'arriver à une solution négociée. Ce sont deux manières complètement différentes de voir les positions d'auteur et de victime.
Loïc Villabu,
je ne peux être que d'accord avec le dernier point, puisque j'ai participé à une mission au niveau du ministère de la Justice, la justice réparatrice. Donc je peux être que d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que la victimologie, elle ne date pas d'il y a 50 ans. Elle a ses origines aussi. Hein, et que ce qui est fondamental
oui,
à
mais
concevoir...
elle a des origines très différentes. La victimologie dont vous parlez, le couple pénal dont vous parlez, il n'y a pas cette dimension que vient de souligner Yves Cartuyvel, ce qui est très important, de l'opinion public, de l'opinion publique constituée comme un grand syndicat contre l'agression criminelle.
Oui, oui, mais...
C'est nouveau, ce qui n'est pas du tout le cas dans la société de la fin du 19e, où il y a une morale substantielle encore extrêmement forte, qui explique d'ailleurs cette définition de la délinquance des jeunes filles.
Oui, mais cette victimologie dite moderne n'est jamais que le résultat d'une position assurantielle. C'est comment indemniser, hein, essentiellement. Hein. Alors qu'après, il y ait un certain nombre d'instrumentalisations. Hein. Ben oui, bien entendu, oui, mais dans tous les cas, il y a des instrumentalisations. Je vais vous donner un exemple très très net. Avant qu'on invente la victimologie, au fond, qu'est-ce qui se passait? Il y avait bien des accidents, mais les accidents n'étaient pas pris en compte socialement ni assurantiellement. Autrement dit, il y avait bien... Quand vous aviez un accident, c'était un fait accidentel dont personne n'était responsable. Vous étiez coupable. Maintenant, ce qui est né à travers cette victimologie contemporaine, c'est le passage de la culpabilité à la responsabilité collective. Et c'est là, c'est en sens que je parle de santé publique. Je veux dire que ça n'est plus une question d'individu, c'est une question de collectivité.
Et vous ne sentez pas revenir, vous prenez l'exemple des accidents automobiles, qui est un exemple très intéressant.
De chemin de fer au 19e siècle.
Ah oui, vous prenez la catastrophe. Mais si on prend l'exemple de l'accident automobile aujourd'hui, finalement, nous sommes confrontés au grand scandale de la mort, parce que derrière la criminologie, il y a cette dimension anthropologique de notre incapacité des sociétés modernes, collectivement, à comprendre ou à accepter ou à gérer, l'expression est terrible, la mort. Il n'y a plus de mort naturelle et il n'y a pas d'accident qui ne soit l'expression d'une intention, voire d'une personnalité criminelle. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a les accidents d'automobile sont en train de devenir, on voit d'ailleurs que la répression est de plus en plus lourde. Alors qu'est-ce que nous dit la criminologie là-dessus?
L'inflation de la référence pénale est certainement à revoir, ça c'est clair. Le fait que la référence pénale soit la référence ultime est certainement à revoir. Tout à fait. Hein.
Et Cartuyvel.
Oui, juste sur cette question, ça me fait penser à ce qu'un juge civil belge me disait il y a quelques mois. Il disait au fond, ce qui est très frappant comme évolution, c'est que les justiciables n'acceptent plus la notion d'accident. Ils veulent un responsable. Et donc, ils veulent, au fond, se voir reconnus comme victimes. Ça a deux effets. Deux effets qui, à mon sens, sont problématiques. Le premier, c'est que ça contribue effectivement à une lecture pénale de tout un ensemble de problèmes sociaux. Dès qu'il y a conflit, dès qu'il y a problème, il y a cette lecture pénale en termes d'auteur et de victime qui est en train de s'instiller. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Et la deuxième chose, c'est que cette reconnaissance comme victime, dans un premier temps, c'est intéressant. Mais enfin, la question, et j'imagine que comme psychologue, vous pourriez avoir des choses à dire là-dessus, il me semble que la question, une fois qu'on est reconnu comme victime, après, c'est d'en sortir.
C'est de ne pas rester coincé dans cette position-là. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Il y a quand même un travail de deuil qui doit se faire à un moment donné aussi. Et si on peut aider des gens, c'est peut-être à dépasser ce statut-là. Or, nous sommes pris aujourd'hui dans un discours où il y a une telle valorisation de la position de victime, une telle profusion de dispositifs victimaires qu'on pousse toute une série de gens à s'installer dans cette posture-là et à y rester.
Ce qui est très intéressant dans la question, ce qui est très intéressant dans cette question, c'est qu'on voit à quel point la perception de la criminologie a des effets pratiques. Où nous sommes dans un premier paradigme d'essentialisation des criminels nés, auquel correspond une essentialisation de la victime. Il y a des victimes, ontologiques aujourd'hui. On le voit dans la question de l'esclavage, ou dans la question de la colonisation, ou même des questions raciales, comme s'il y avait des races victimes. Donc, on voit le risque d'enfermement par la victimité, et où on voit, au contraire, si l'on adopte le second paradigme, l'importance de l'interaction, l'importance de l'horizon de la sortie de la victimité.
Oui.
Tout ça pour...
Je ne ferai que la même remarque tout à l'heure. Je pense que constituer un monde à deux termes d'opposés n'est pas vraiment consistant. C'est confortable, mais ce n'est pas consistant. La question de la victimologie, qu'elle prenne une place importante actuellement, me paraît historiquement non contestable, d'autant qu'elle a été l'objet d'un oubli systématique quand la seule référence pénale était en œuvre, à savoir qu'il n'y avait pas de victime, mais il n'y avait que du témoignage, d'une certaine manière. Hein, la question de la victimité psychologique n'était pas prise en compte. Qu'elle soit instrumentalisée actuellement de point de vue politique, je suis bien d'accord.
Oui, mais ça ne vous gêne pas, ça ne gêne pas que le savoir à la construction duquel vous participez soit instrumentalisé, qu'il soit orienté soit à la prise en charge psychologique aussi bien de l'auteur pour la victime de façon à sortir de l'enfermement du crime, que l'on soit auteur ou victime, ou au contraire à ce que ce savoir soit mobilisé pour renforcer, pour accuser cette différence entre...
Mais c'est bien pourquoi, et c'est en partie l'objet du débat, c'est bien pourquoi je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut changer cette division du monde en deux clans que si on admet la possibilité de former en criminologie et en victimologie.
Alors c'est ça, donc la constitution de la criminologie serait une manière de sortir de cet enfermement.
Mais exactement comme on a fait par rapport à la folie. Avant qu'il y ait des malades mentaux, il y avait des fous. Avant qu'il y ait la psychiatrie, il y avait l'aliénisme. Autrement dit, toute la victoire du XXe siècle, du point de vue culturel et scientifique, ça a été de faire passer les sujets d'un état à un autre. Je veux dire qu'actuellement, au XXIe siècle, il s'agit du même combat. Il s'agit bien de faire passer le monstre criminel ou la victime qui, dans un populisme, devient extraordinairement présente. Il s'agit bien de faire passer tout ce monde-là dans un monde culturel, discuté, réfléchi.
Yves Cartuez. Un moment sur la question de la formation en criminologie. Moi, j'ai absolument rien contre la formation de toute une série d'acteurs dans ce champ. La question, c'est quelle formation, comment la penser et où la penser. Et c'est là, je crois, qu'il faut être conscient des enjeux.
Selon vous, parce que si j'ai bien entendu ce que nous dit Loïc Villerbu nous dit qu'il faut commencer par construire une science, serait-ce que pour en sortir.
Non, j'ai pas dit ça.
Alors.
J'ai dit, regardons ce qui se passe. Et à quoi ça correspond.
D'accord. Éventuellement, pour ensuite déconstruire.
Je ne suis pas franco-français en me disant, tant que je n'ai pas le concept, je ne fais rien.
Non, mais là probablement qu'il serait intéressant d'aller voir dans différents pays européens, parce que, contrairement peut-être à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la France ne fait pas nécessairement exception en n'ayant pas de faculté ou d'école de criminologie. Aux Pays-Bas, ça n'existe pas non plus. Pourtant, Dieu sait s'ils ont une production importante en la matière. Alors, vous en avez en Angleterre, vous en avez aux États-Unis. En Allemagne, je ne suis pas sûr du tout que ça soit très, très développé. Et donc, la question, c'est où se développe ce champ-là dans ces pays-là. Alors, c'est vrai qu'on peut le rattacher quand même de manière principielle à un département ou à un autre. Alors, on peut le rattacher à des facultés de psychologie, par exemple, mais c'est clair que c'est une option. Je la trouverais, je m'en excuse, mais extrêmement dangereuse vu l'évolution actuelle de la psychologie.
Ça renforcerait ce côté prédictif.
Je crois. Parce qu'il y a une tendance et que le politique actuellement, aujourd'hui, attend ça à deux mains et que donc vous avez un mouvement qui va ce sens-là.
Il faut mieux qu'elle soit dans les facultés de droit parce
que moi,
c'est affiché.
Je préfère l'avoir rattachée effectivement, comme c'est le cas chez nous, à des facultés de droit ou des facultés de sociologie où on fait effectivement de cette question-là, mais tout dépend du paradigme auquel on se rattache, où on en fait avant tout
tout une question qui est sociale et derrière laquelle il y a des enjeux qui sont de nature éthique et politique. Et donc, le rattachement formel n'est absolument pas neutre. Et si je viens un moment sur le débat français, que l'initiative émane de M. Boer, effectivement, ça n'est pas neutre. Ça n'est pas une pure question formelle. Ça a des implications.
C'est-à-dire un arrière-plan politique.
Je crois. Vous savez, c'est un champ dans lequel les éléments politiques sont constants. Et c'est ce qui fait que le débat dans ce champ est souvent extrêmement virulent.
Oui, ben, ça, on l'a vu en France.
Et je ne ferai pas référence à la dernière personne que vous venez de nommer. Mais je remarquerai simplement que vous pensez en deux. Autrement dit, vous pensez...
La question qui est posée...
C'est important, quand même, de diviser le monde en deux et dire il y a les bons, il y a les méchants.
Mais non. Hein,
ou il y a les essentialistes et les constructivistes.
Non, mais la question qui est posée,
c'est plus compliqué que ça. Fac de psycho, fac de droit. Fac de psycho, fac de droit. Moi, j'en ai rien à fiche. Je pense profondément...
Parce que vous êtes psychologue. Parce que vous êtes psychologue et donc vous êtes dans un champ qui...
Non. Je pense que si enseignement il peut y avoir, c'est dans le cadre de départements pluridisciplinaires. Mais je ne confierai pas, surtout pas la criminologie au droit. Ça a donné les sciences criminelles une impasse. Je ne confierai surtout pas la criminologie à la sociologie pure, ni à la psychologie pure. Tout ça, ça fait des impasses. C'est une approche intégrée, systématique, conflictuelle et mise en tension, seule susceptible de produire à la fois un raisonnement, une pensée et des professionnels qui ne se laissent pas enfermer dans des débats politistes.
Oui, mais est-ce que précisément le défi que lance la criminologie, le défi quasi épistémologique que lance la criminologie, c'est d'être capable d'avoir à la fois un discours et un métadiscours, à la fois des propositions de compréhension du phénomène criminel qui, je crois, sont nécessaires, et en même temps, et je dis bien en même temps, une réflexion éthique et politique sur l'utilisation qui est faite de ce savoir. On ne peut pas raisonner sur l'anorexie comme on raisonne sur les violences urbaines.
Ben, si, il y a eu des dispositifs de traitement d'anorexie profondément barbares, hein, éthiquement,
oui, bien sûr,
aujourd'hui,
bien sûr, mais qui n'avait pas cette répercussion politique qu'a aujourd'hui le traitement.
Qui n'avait pas cette répercussion politique, je suis bien d'accord. Alors, ça ne diffusait pas de la même manière. Mais il n'empêche que si vous regardez l'histoire de la psychiatrie et le traitement moral qui avait été institué au 19e et au début du 20e, vous levez, vous poussez des hauts cris. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous dites là au niveau de la criminologie, nous pouvons le retrouver au niveau de la psychiatrie et de toutes les activités thérapeutique, de surveillance et autres. Autrement dit, si l'histoire nous apprend quelque chose, ça n'est pas comment on va faire pour ne pas la répéter, c'est comment on va faire pour se situer dans un débat, dans une mise en perspective, hein, des quelles conclusions chacun en tirera. Mais ça n'apprend rien en termes de leçons. Hein. Alors, que la criminologie soit enseignée dans telle discipline ou dans telle autre, ça a un impact fort, c'est sûr. Parce que tant qu'elle sera enseignée en droit, la question de la psychologie sera secondarisée.
Mais bien sûr, mais je ne prêche pas pour les facultés de droit, je prêche pour qu'il y ait une réflexion de philosophie politique et d'éthique qui soit nécessairement associée
mais
à la criminologie.
Mais si vous regardez le titre de mon intervention à la conférence qu'il y a eu le 3 février, ça se terminait bien par... De quelle éthique s'agit-il ? Autrement dit, la question éthique et politique est une question au cœur de toute construction. Au cœur de toute construction.
Mais elle n'a pas la même intensité, encore une fois. Elle n'a pas nécessaire.
Elle n'a l'intensité que celle qu'on lui donne, ou que chacun des acteurs lui donne. C'est pour ça, et je reviens, c'est pour ça que je me dis profondément que nous ne changerons la façon de considérer les positions des uns et des autres que si nous entreprenons des formations innovantes.
C'est ça. Et pour qui...
Mais je pense qu'a priori, je n'ai pas d'objection à ça. Donc je suis parti de la décision, de ma définition de départ, en disant c'est un champ d'études qui est fondamentalement interdisciplinaire. Donc effectivement, je crois qu'il faut penser là une approche qui soit interdisciplinaire avec des discours différents qui s'affrontent, qui se combattent, qui oppose des constructions d'objets qui sont différents. Et donc, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Reste maintenant la question, le rattachement principal. Où est-ce qu'on le met ? Parce que vous avez toujours des rapports de force et des rapports de pouvoir, des rapports de domination entre les différentes disciplines. Et alors, là, je suis venu avec une présentation effectivement duelle de deux paradigmes. C'est pas une volonté de rester ici dans un regard duel. C'est partir, là, quand même, de l'histoire dont la discipline s'est construite et un constat, ça s'est polarisé comme comme se
cela, et ça continue à se polariser comme cela, pas nécessairement par les gens à l'intérieur de la discipline, mais suite aussi aux pressions qui viennent de l'extérieur. Et il y a un changement là aujourd'hui qui fait qu'on voit revenir ce premier paradigme de manière beaucoup plus forte.
Les bons et les méchants ont toujours participé au fond à ce type de paradigme, ou bien vous êtes méchant naturellement, ou bien vous êtes méchant par construction.
Ça sera le dernier mot, Loïc Villerbu. Quelle serait la discipline reine dans cette multidisciplinarité?
Il n'y a pas de discipline reine. Je fais le constat que toutes les disciplines doivent être secondarisées sur un champ de compétences. C'est ça mon constat.
Eh bien, j'espère que les auditeurs auront retenu de ces débats, sortiront de ce débat avec une vision un peu plus claire sur les enjeux importants, comme on l'a vu, et polémiques de la criminologie.
(11h54 sur France Culture, les questions d'époque sont aujourd'hui avec le bien commun. On retrouve tout de suite la chronique de Sébastien Miller ce matin. Travail forcé et atteinte à la dignité humaine.
Bonjour à tous. Chambre criminelle de la Cour de cassation, arrêt du 13 janvier 2009. Les faits étaient les suivants. Une femme avait fait venir de Côte d'Ivoire une jeune adolescente qu'elle avait employée à son domicile pour effectuer des tâches ménagères. Employée, le terme est faible puisque la jeune fille avait été littéralement exploitée par celle qui l'avait accueillie. Elle ne bénéficiait d'aucun congé et ne percevait qu'un peu d'argent de poche ou de maigres subsides qu'elle était autorisée à faire parvenir en Côte d'Ivoire. De plus, son employeur avait confisqué son passeport. En réalité, il s'agissait ni plus ni moins que de travail forcé. Ce calvaire avait duré 6 ans, jusqu'à l'intervention de la justice. La femme qui avait fait venir la jeune mineure avait alors été poursuivie pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier, pour emploi d'un étranger démuni de titre de travail, pour obtention de services non rétribués de la part d'une personne vulnérable et pour soumission de cette même personne à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. La femme avait été condamnée de la plupart de ses chefs d'accusation, mais la cour d'appel n'avait pas retenu le dernier. Celui de soumission de la personne vulnérable à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. La jeune victime s'était alors pourvue en cassation. Si la cour d'appel avait relaxé la prévenue du dernier chef d'accusation, c'était parce qu'elle avait constaté que la jeune fille disposait des mêmes conditions de logement que les membres de la famille et qu'elle était l'objet de sa part d'une véritable affection. Pour cette raison, elle avait écarté l'accusation d'atteinte à la dignité humaine. Ce faisant, la cour d'appel avait pris en considération les circonstances et elle avait introduit une distinction dans le travail forcé entre celui qui résultait d'un véritable asservissement, contraire à la dignité humaine, et celui qui, tout en tombant sous le coup d'un certain nombre de chefs d'accusation, se déroulait d'une manière telle qu'on ne pouvait considérer qu'il soit en lui-même attentatoire à la dignité de la personne humaine. C'est cette conception que la chambre criminelle de la Cour de cassation a entendu condamner et de la manière la plus ferme. En effet, elle pose le principe que tout travail forcé est incompatible avec la dignité humaine. Et elle casse et annule, sur ce dernier point, la décision de la Cour d'appel. En arbitrant ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation envoie un signal très net aux juridictions pénales. À partir du moment où la situation de travail forcé est avérée, il n'y a pas lieu de rechercher dans les circonstances les éléments qui pourraient justifier que soit écartée l'infraction de soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité humaine. Ce faisant, la chambre criminelle de la Cour de cassation objectivise l'infraction concernée et elle évite au débat de se porter sur des éléments subjectifs, culturels ou affectifs qui viendraient relativiser la réalité de l'atteinte à la dignité humaine. Parfois, trancher pour le juge, cela consiste à clore, même par avance, toute discussion sur un sujet.
La chronique de Sébastien Miller, merci beaucoup. C'est la fin du bien commun proposé tous les mercredis dans le cadre de Questions d'époque par Antoine Garapon avec la collaboration d'Harold Épineuse et Élise Brissot. Merci à toute l'équipe et à demain 11h.